Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? À part aller faire ses courses et amener ma fille à la crèche et pour les idées. Moi j'aime bien marcher pour avoir les idées. Je trouve que ça libère la pensée et on regarde ce qui se passe. On ne fait pas attention au fait qu'on est en train de chercher des idées et elles arrivent un peu toutes seules. Voilà, c'est un bon remède quand on est un peu bloqué sur les scénarios.
Marcher pour faire son marché aux idées.
Oui, très belle formule.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue le dessinateur Raphaël Beuchaud. Raphaël Beuchaud est avec Zidrou, l'auteur de la trilogie africaine Le Montreur d'Histoire, Tourne-Disque et un tout petit bout d'aile. Album de bande dessinée paru aux éditions du Lombard.
Alors le dessin,
ça a toujours été un à côté important, mais le fait d'en vivre et de choisir d'en faire pour en vivre, c'est arrivé vraiment tard, quoi. C'est arrivé il y a 9 ans, 8-9 ans. Quoi.
C'était une bascule volontaire ?
C'était volontaire. En fait, j'étais ingénieur, je détestais mon travail. À l'époque, je postais des pages sur Internet qui ont été remarquées par un éditeur. Bon, après, ça n'a rien donné, mais le fait qu'il y ait un éditeur qui me contacte, je me suis dit, bon, je vais tenter le coup dans la BD, je vais arrêter mon boulot d'ingénieur, je tente le coup dans la BD, et on verra ce qui se passe. Et depuis, ça marche dans la BD, quoi.
Je profite pour faire aussi un guide touristique.
Alors, ici existe un jeu de paume détruit en 1836 dans lequel M. Poquelin, dit Molière, a joué la comédie en 1648. Et ben voilà, je savais pas. Je commençais le dessin en recopiant mes Tintins, en recopiant mes Dragon Ball voilà quoi. Mais non, pas de cours de dessin. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu un manque parfois. Un petit peu un manque de base académique. En même temps, c'est aussi ce qui donne la personnalité à mon dessin. C'est aussi ses imperfections et ses défauts.
Ça crée un style.
Voilà, ça crée un peu un style. Après, il faut pas son. Enfin, ça a créé une petite différence, mais ça ne veut pas dire qu'il faut. Enfin, il faut quand même travailler son dessin, quoi. Mais quelque part, c'est pas ça le plus important, je pense. Surtout quand on fait de la bande dessinée. Ce qui est important, c'est de transmettre les bonnes émotions. C'est de transmettre un jeu d'acteur précis avec lequel le lecteur va être en empathie. Faire un dessin le plus juste possible, c'est pas si important que ça.
Pénétrons dans l'atelier boutique de Gilles.
Si je devais reproduire le décor ici, par contre, il y aurait du boulot de documentation, justement. Tu vois, la machine qui coule le cuir, la découpe, ça, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut la dessiner correctement, la représenter dans ses détails.
Gilles, qui connaît bien le Cameroun, découvre le troisième album de la trilogie africaine de Raphaël Beuchaud et de Zidrou, Un tout petit bout d'aile.
C'est une histoire d'amour entre un ouvrier chinois qui travaille au Congo et une Congolaise sur place. Et la Congolaise a été excisée dans sa jeunesse. Et donc c'est une espèce d'histoire d'amour qui se construit autour de ça, quoi.
On peut vous demander de feuilleter.
Déjà, à la première page, je vois très bien les grues de bois. C'est-à-dire que ça va faire partir aussi d'une enfance, de mes 0 à mes 13 ans. Quelque chose que j'ai pu pouvoir passer. Voilà. Et que j'ai pu voir passer. Oui, après cette image maternelle, c'est une image maternelle où on va retrouver dans toutes les sociétés, que ce soit dans notre société occidentale.
Donc un petit enfant avec son sac à dos.
On va retrouver ça partout, partout dans nos vies aujourd'hui.
Au Cameroun, je pense au grumier, le Cameroun, c'est très important, l'exploitation forestière là-bas. C'est moi qui avais proposé au scénariste de parler de la présence chinoise, parce que c'est... C'est une des nouvelles réalités de l'Afrique noire, justement, qui me paraissait intéressante de développer.
Après, le débat sur l'exploitation en elle-même, je ne sais pas comment on le décrirait aujourd'hui. Moi, je dirais même pas, je ne parlerais pas d'exploitation parce que c'est... Entre les peuples aujourd'hui, je pense plutôt que c'est un échange. Et après, parfois, il ne faut pas se voiler les yeux. C'est toujours la loi du plus fort qui gagne. Je n'accuserai pas les Chinois comme je n'accuserai pas nous, Occidentaux, en Afrique. J'accuserai plutôt les hommes qui sont sur place, les chefs d'État en Afrique, que d'accuser mon État en France ou d'accuser l'État chinois, quoi que ce soit. Parce que c'est des gens autant intellects que vous et moi qui ont fait les mêmes études que nos chefs d'État. Donc je pense que c'est eux qui sont... C'est à eux vraiment que leur peuple va en vouloir et pas à l'Occident. Et non plus pas au gouvernement chinois. C'est aux hommes sur place qui sont sur le terrain et pas nous, Occidentaux, ni pour rien. C'est fini, je pense.
Alors ?
Alors, je peux dire que, oui, je retrouve à peu près les images. Oui, c'était les images, les images que j'ai pu avoir de mon enfance, quand je vois déjà, par exemple, là, c'est un accès au plus facile à quelqu'un qui repart. Je ne sais pas si c'est un mécanicien, je n'ai pas... Voilà, qui est en train de faire qui est en train de réparer des télévisions ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est accessible, tout est visible, tout est dans la rue, tout est... j'ai un pneu qui est crevé, c'est-à-dire que c'est aussi vraiment une part de l'Afrique. Hein. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça a changé. C'est quelque chose qui est vraiment palpable. La structuration des choses telles qu'on peut voir aujourd'hui chez nous, de dire que... parfois, on peut avoir un pneu crevé, le temps de trouver un garage, on fait des kilomètres chez nous pour retrouver. Non, on a juste quelques 300 pas, on a trouvé quelqu'un qui a l'outil pour dépanner. Et donc, en fait, oui, on va dire que même si ça saute au Congo, les histoires de mœurs, tous vont presque se ressembler. Sauf qu'à ma connaissance, au Cameroun, l'excision n'existe pas. Ouais. Et que si ça existait, je pense qu'il y a une autorité sur place, malgré la critique qu'on peut avoir très forte face à ces genres de barbarie, hein. je vais l'appeler ainsi. Mais maintenant, au Congo, je suis encore surpris que ça puisse exister.
Ouais, mais moi aussi, ouais, en fait, je pensais que c'était une pratique qui avait disparu de toute l'Afrique. Et en fait, quand j'ai vu les chiffres, c'est incroyable comme c'est encore très répandu. Je ne pensais pas, mais je sais qu'il y a un dossier explicatif à la fin. Je ne sais pas s'il y a une carte.
Juste à la fin.
Juste à la fin.
Hein. Qu'on va trouver encore. Voilà.
Ok, ouais, déjà là.
Ouais, Cameroun, c'est jaune, donc c'est effectivement, ouais, c'est un petit peu isolé par rapport à ses voisins où c'est plus fréquent.
Mmh. Et oui, on va dire que je suis même surpris qu'il restait dans le jaune parce que.
Jaune, c'est moins de 5%.
Oui, moins de 5%, mais moi je dirais que moins de 5%, oui, même si c'est moins de 5%, ça reste quand même quelque chose d'existant. Il n'y a pas à tolérer hein, ces genres de choses, que ce soit en Afrique ou chez nous. Après, il faut bien imaginer encore que chez nous, si ce n'était pas combattu, ça existerait aussi. Mmh. Voilà, donc je vais dire bravo de pouvoir esquisser ça ainsi, c'est-à-dire que de pouvoir le présenter ainsi, parce que ça permet d'avoir une facilité de lecture, que ce soit pour le fils que je peux avoir à la maison, ouais. Pour tout autre enfant, c'est avec des images qui sont palpables. Et puis l'histoire d'amour, comme on disait tantôt, une Chinoise et une Africaine, déjà dans nos rues à Nantes ou partout en France, ça peut pas être commun.
Non, c'est pas ce qu'on voit le plus, c'est vrai.
Et là, ça arrive au Congo. Ouais. Je vais dire, ça va être encore plus difficile, même parfois, même ne serait-ce que pour la Congolaise. Hein. Il faut bien le dire que si traduction existe parfois, c'est parfois forcé de pouvoir suivre une traduction à une culture qui est de famille depuis des millénaires et courage à cette histoire. Oui, courage à cette femme-là qui s'échappe et suit le sens du cœur et de l'amour.
Qu'on retrouve après.
Elle part à Hong Kong et à la fin, ouais, avec son amoureux, elle quitte effectivement le Congo parce que voilà, il y a eu l'excision de sa fille. Du coup, elle va être dans un pays enfin, totalement étranger pour elle, et ça sera pas évident non plus. Je pense que c'est pas si facile que ça d'arriver à Hong Kong quand on est une Congolaise. Bon, c'est pas évident, quoi.
Comme toute immigration, hein, je veux dire que quand on quitte sa terre natale et qu'on immerge ailleurs, le départ n'est jamais facile. Après, si mentalement on est prêt, je pense qu'il y a seulement à vous à dire que s'adapter aux mœurs et aux coutumes de l'endroit et parfois accepter les préjugés, essayer autant de changer les préjugés tels qu'on en parlait la dernière fois sur...
Bon, on va pas refaire l'émission.
Là, il dénonce aussi notre barbarie qui est celui des arbres, de la forêt.
C'est exactement ça.
Des conditions de travail aussi, sur le chantier.
Ouais, et puis le fait de piller la forêt sans vraiment réfléchir, c'est un peu mis en parallèle.
Donc voilà. Mais écoute, comme je promets à chaque fois, et je le fais d'ailleurs, quand je promets de pouvoir jeter un coup d'œil en profondeur, j'évite de trop lire pour ne pas l'acheter.
Ça me fait vachement plaisir en fait d'avoir ce retour-là, parce que ma plus grande crainte, c'était justement de savoir comment ça serait perçu par des personnes d'origine africaine. Savoir ce genre de livre-là, est-ce que ça suscite de l'intérêt ou pas. Et justement, je suis content de voir que...
Après, origine ou pas, je pense tout simplement que c'est une barbarie que l'homme ne peut pas accepter. Homme qui accepte ça, je sais pas comment je le décrirais, quoi. C'est-à-dire que je pense que pour ma part, noir de peau mais français avant tout, ouais. Je ne le segmente pas par l'air des origines ou bien de dire que le breton d'origine aurait accord à ça ou non, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. C'est-à-dire que dès lors où on va décider négativement pour une femme ou bien pour un homme c'est pas valable. On va bien dire que il y a des majorités qui existent dans tout pays. À cet âge-là, on peut laisser qui que ce soit décider de ce qu'il y a à faire. On décide pour son enfant, au positif, au négatif, bien sûr. Donc, voilà.
Merci, Gilles.
Au plaisir.
Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup.
Et forte promesse, pas que moi le lirai, mais qu'Eliane aussi va le lire.
J'espère que ça leur parlera.
Aussi, je pense que notre devoir aussi de père, même si vous ne l'êtes pas, c'est de transmettre. C'est-à-dire que les valeurs que j'ai, je le transmets. Et après, il en fera ce qu'il veut.
C'est
à lui de
voir.
Et d'ailleurs, merci encore à vous. Parce que j'ose bien imaginer que ces gens que ceux qui sont souvent pour ces genres de choses peuvent aller plus loin par rapport à des gens comme vous qui osent parler tout haut. Il en faut des gens qu'on...
Alors, c'est une trilogie. Celui d'avant...
C'est une histoire qui se passe pendant la colonisation. Et en fait, il y a un domestique noir qui travaille pour des Belges, donc blancs. Mmh. Et sa seule fonction dans la maison, c'est de passer de la musique à ses maîtres. Mmh. Et il n'a même pas de prénom. En fait, ses maîtres l'appellent tourne-disque parce qu'il tourne à manivelle de ses maîtres. Et en fait, c'est la rencontre entre cette personne-là, ce domestique qui finalement est très fort en musique puisqu'il connaît tous les disques par cœur. Et un violoniste belge, un vieux monsieur très fort. Et donc les deux se rencontrent avec leurs préjugés et finalement trouvent avec la musique un espèce de langage commun qui débouche pas, peut-être pas sur une amitié, mais sur une espèce de respect mutuel, une compréhension. Voilà.
Comme quoi les arts rassemblent les gens.
Oui.
Les arts rassemblent énormément les gens. Et, d'ailleurs au Congo, ils ont une forte culture musicale très, très imprégnée. Que ce soit au Congo ou à l'extérieur. Et j'espère que l'un de leurs artistes pourra le lire, parce que là-bas, ils sont très écoutés. Et d'une autre façon, le propager par la musique, je pense que ça aurait autant une portée telle que...
Et alors, ça me suggère, après, on ne vous ennuie plus, hein, Gilles, mais...
On va dire qu'à chaque fois qu'il passe, ça permet de s'évader, de sortir de toute cette concentration dont...
C'est... Non, mais un jour, ce sera fermé à clé dès qu'il me verra.
Ouais, c'est ça.
Ferme le voleur.
Fermez la musique.
Nous accompagnons dans la rue Raphaël Bechot,
le dessinateur du Montreur d'Histoire, Tourne-Disque et un tout petit bout d'aile, trois albums de bande dessinée parus aux éditions du Lombard. Récemment commandé des fouets.
On va dire qu'à chaque fois qu'on me commande un martinet, je n'ai pas à savoir à quoi ça va servir.
On vous en commande ?
Si, si. Si, si, on m'en commande. À chaque fois que je veux mettre au tissage des martinets, je vais le tisser sans toutefois avoir d'arrière-pensée, bien sûr, hein, parce que. Voilà. Après, nous sommes bien dans une société libre. Quand les gens arrivent, il y a une façon de le commander, c'est-à-dire, monsieur, est-ce que vous faites, mais c'est-à-dire que c'est tout avec les gestes. J'ai dit, bon, ok, bah, écoutez, si. Et c'est plutôt avec le geste qu'on le commande et le mot martinet parfois a du mal à sortir.
Merci bien.
Ceci dit, la prochaine fois que vous venez nous voir, si vous avez un sujet autour de notre propre société française, ça sera autant plus intéressant pour moi.
Je vous enferme trop, là.
Oui, vous m'enfermez un peu trop. Et je pense que vous m'amenez sur des sujets qui est autant plaisant, qui est intéressant, mais qui n'est pas dans la continuité de ma vie. Je voudrais que les sujets soient autant plus sur la continuité de ma vie. Voilà, vous comprenez ce que je vais dire.
Je vous fais la promesse que la prochaine fois, on parlera de tout, sauf d'Afrique. Mais là, on commençait avec le martinet.
Justement, je vois bien.
Je vais trouver quelqu'un.
Le prochain sujet, ça va être...
Donc voilà.
C'est noté.
Ceci dit, c'est plaisant. Je veux dire, c'est un combat partagé. C'est un combat partagé. Encore par vous, c'est encore mieux. Parce que c'est un sujet que je ne peux pas combattre, je ne pense pas. Mmh. Voilà. Ça serait trop clivage. Le clivage ne serait pas...
Bonjour, madame.
Pas, peut-être pas compris.
D'accord.
Voilà.
Merci, Gilles.
Merci, c'est moi.
C'est vraiment intéressant. Hein. Puis, merci beaucoup.
Bonne continuation.
Merci. Merci.
Travail.
Au revoir.
Au revoir.
Madame.
Bonjour, madame.
Le premier album de la trilogie tranche au niveau des couleurs.
C'est-à-dire que la première BD, je l'ai faite dans des couleurs très saturées, très vives. Pour la deuxième, qui se passe dans les années 30, au départ, j'ai essayé de repartir sur ces gammes-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment. Le côté un peu passé, le côté de l'époque, un peu années 30, c'était mal transmis par ces gammes-là. Donc j'ai tout repris dans des couleurs plus désaturées, mais quand même lumineuses. Et le résultat marchait bien, et du coup j'ai continué là-dessus pour la dernière, avec un rendu un peu plus poussiéreux, moite, plus que les couleurs un peu cartoon du premier tome.
C'est plus agréable en fait.
Oui, je pense que c'est moins agressif, et en plus je pense que c'est plus proche de la réalité, parce que du coup pour ce troisième tome j'ai quand même pas mal bouffé de doc de l'Afrique contemporaine, et il y a souvent ces... des ciels qui sont plus blancs que bleus quasiment, et des rues un peu poussiéreuses, surtout là quand c'est de la terre comme ça. Enfin, je pense qu'en étant dans le désaturé, c'était plus juste en fait. Il faut dire aussi que la thématique du troisième tome est aussi un bon sujet. Je parle en termes journalistiques. Hein. Je pense que c'est un bon sujet, parce que c'est sujet d'actualité. Et du coup, ça fait une accroche, un angle pour les journalistes.
C'est pas commun d'avoir un dossier à la fin d'un album et des contacts.
Ouais, carrément. En fait, au début, moi, j'étais pas franchement pour l'idée du dossier. Je trouvais que le récit était suffisamment complet. Il y avait déjà des chiffres qui sont donnés dans le récit, tout ça, je ne voyais pas bien l'intérêt. J'avais l'impression que c'était un peu... j'avais l'impression que c'était un peu infantiliser le public. Leur dire, si vous n'aviez pas compris, on va vous réexpliquer l'excision. Mais en fait, quand j'ai vu le dossier, j'étais super enthousiaste parce que je le trouve très bien fait. Il rappelle vraiment les choses clairement, les faits sont bien visibles, c'est bien rédigé. Enfin, du coup, je pense que ça a une vraie valeur ajoutée par rapport au livre. C'est d'abord une histoire d'amour qu'on voulait raconter, en fait. C'était ça, le... C'était pas... Après, effectivement, on s'attaque à l'excision de manière plus ou moins frontale, mais c'est avant tout, c'est une histoire d'amour, c'est déjà ça. Et après, il y a un plus, effectivement, documentaire, et le dossier permet de le creuser, mais c'est pas... Oui, c'est pas une docu-fiction, quoi. C'est vraiment une fiction, quoi. Et le côté militant, je pense qu'on l'a... En fait, c'est bizarre, c'est une BD, je pense, qui est finalement très militante, parce qu'elle a un côté documentaire assumé à la fin, qui va apporter beaucoup de visibilité aux associations qui luttent contre l'excision, mais dont le ton du récit, on n'est pas dans quelque chose de militant, on est dans... Justement, on regarde les choses un peu de loin, sans essayer de prendre trop parti. Comme Zidrou fait souvent d'ailleurs, il est toujours. Il décrit des choses, il décrit des personnages, mais il n'est pas là en train de pointer du doigt. Ah, regardez, ça c'est pas bien, ou ah, regardez, ça c'est mal. Il est pas dans cette approche-là, et ça me paraît assez intéressant en fait.
Ce que je remarquais, c'est que ce sont deux hommes, deux Occidentaux.
Oui, alors moi, ça c'était une de mes grosses craintes, c'est-à-dire qu'on est deux Occidentaux blancs. Et on fait une BD qui parle de problèmes de femmes noires africaines. Je sais que ça peut être mal perçu. Je sais que ça peut être mal compris. Donc j'ai quand même l'impression qu'on l'a fait en étant assez humble par rapport au sujet, en étant déjà en construisant une histoire d'amour, donc avec des personnages qu'on respecte et qu'on... Enfin voilà, on a essayé de les traiter avec un respect de scénariste, quoi. Et puis... La thématique, justement, le dossier, on a quand même fait super gaffe à pas être dans un ton paternaliste, donneur de leçons, quoi. C'est pas ça. Le but du jeu, c'est pas ça. C'est vraiment d'informer, plus de décrire quelque chose qui se fait. Moi-même, je le savais pas avant de commencer l'album. Hein. J'ai appris plein de trucs en travaillant sur l'album. Et je pense que voilà, notre boulot là-dessus, c'est vraiment de dire, voilà, ça existe. C'est une certaine réalité de l'Afrique contemporaine, et après vous en faites ce que vous en voulez, quoi. Mais on n'est pas là en train de faire les blancs dénonçant les pratiques barbares des noirs. Enfin, je pense qu'on a évité cet écueil-là, quoi. D'ailleurs, moi, ça me paraissait extrêmement important de l'éviter, clairement. Et encore plus, des hommes qui parlent de problèmes féminins, et ben, ça veut dire qu'il fallait être encore plus... prudent par rapport à la façon dont on allait raconter l'histoire. Et je pense que Zidrou a justement son personnage féminin, il l'a pas angélisé non plus. Enfin, c'est une femme qui a ses contradictions, et je trouve ça assez intelligent de sa part, en fait. Il a pas servi quelque chose de manichéen, une victime. Non, il en a fait un personnage. Effectivement, victime, et qui essaie de se reconstruire par rapport à ça, qui a une vie, qui essaie d'avoir sa vie de femme normale, qui essaie de séduire malgré un passé douloureux, et je trouve que là-dessus, c'est assez intelligent de sa part.
Merci à Raphaël Bechaud, le dessinateur du Montreur d'Histoire, Tourne-Disque et Un tout petit bout d'aile, trois albums de bande dessinée parus aux éditions du Lombard, et merci à Gilles pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de la librairie Aladin.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure en marchant dans la rue ?
Ben c'est bien. Après, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de faire quelque chose qui fait que les gens regardent. Je suis toujours assez mal à l'aise par rapport au regard des autres. J'aime bien être discret. En fait. Je suis plutôt un furtif qu'un exubérant. Mais par contre, j'ai vraiment apprécié la rencontre avec Gilles, qui est vraiment une personnalité qui m'a parlé. En fait, il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Et ça m'a vraiment plu, quoi. Ça m'a plu. Mais je pense que c'est bien de parler en marchant. Ça libère un peu la... ça libère un peu la parole.
Vous avez un petit peu flippé, non?
Oui, mais en fait, j'ai vite vu qu'il était, c'était quelqu'un de vraiment brillant, quoi, et qui était poli, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais les remarques qu'il a faites sont des remarques qui m'ont vraiment touché, et c'est des questions que je me posais, en fait, par rapport à mon travail. Je me disais, est-ce que quelqu'un qui a connu ça en Afrique, qui a connu les grumiers, est-ce que c'est des décors qui vont lui parler? Est-ce que j'ai retranscrit fidèlement ça? Est-ce que j'ai vraiment fait mon travail de dessinateur ?